La CPTS des Bauges, la boussole qui guide votre santé vers de nouveaux sommets.
Le cancer colorectal est l'un des cancers les plus fréquents en France. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que c'est le deuxième cancer le plus meurtrier après celui du poumon. Et pourtant, si ce cancer est détecté à temps, il se guérit dans 9 cas sur 10. Alors je vous annonce ça comme si je m'y connaissais, mais en fait je le découvre en même temps que vous. Et ceux qui vous en parlent, ce sont les membres de la CPTS, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé des Bauges. Et je reçois aujourd'hui Maude Duchesne, infirmière. Bonjour Maude.
Bonjour.
Catherine Gou, infirmière libérale. Bonjour.
Bonjour.
Et Edmond Guillot, le coordinateur de la CPTS.
Bonjour.
Alors j'espère que vous en savez un petit peu plus que moi sur le côlon, parce que déjà, je découvre le mot, mais pas loin. Et on va en parler parce que, comme chaque année, Mars bleu est un mois qui vise à sensibiliser la population à l'importance du dépistage. Qu'on nous vend comme un test simple et indolore, on va revenir dessus, et qui permet surtout d'identifier la maladie avant l'apparition des symptômes. Maude, avant qu'on aille plus dans Mars bleu et comment on fait le dépistage, pour des néophytes comme moi qui ne situent absolument pas leur côlon dans leur corps, peux-tu nous expliquer un peu ?
Alors, on va voir ça ensemble, effectivement. Donc, le côlon fait partie du tube digestif. Donc, le tube digestif, c'est un long conduit qui va de la bouche à l'anus. Et il permet la digestion des aliments et l'absorption des nutriments. Donc, le tube digestif, il mesure environ 7 à 9 mètres chez un adulte. Et il est constitué de plusieurs organes qui ont chacun un rôle spécifique. Ce que je te propose, c'est qu'on voie globalement ensemble un petit peu tout au long de ce tube digestif comment ça se passe.
Je veux bien, parce que donc, je situe ma bouche, je situe mon anus, mais entre les deux, je n'ai aucune idée.
On va voir ça ensemble. Donc, en premier lieu, effectivement, c'est la bouche, donc c'est la porte d'entrée. Par la bouche. La digestion commence en fait dès la mastication où les dents réduisent les aliments que tu mets dans ta bouche en petits morceaux. Dans la bouche, donc les glandes salivaires vont fabriquer la salive qui contient des enzymes et qui commence déjà la dégradation des aliments. Et une fois bien mélangé dans ta bouche, parce que tu prends bien le temps de mâcher, que tu n'avales pas tout rond, le bol alimentaire est avalé, il passe dans la gorge, donc dans le pharynx, puis dans l'œsophage. L'œsophage, c'est un peu le toboggan qui conduit vers l'estomac. Donc l'œsophage, c'est un tube qui est musculaire d'environ 25 cm de long et qui relie la bouche à l'estomac. Les aliments sont poussés grâce à des mouvements qu'on appelle le péristaltisme, donc c'est des contractions musculaires qui vont permettre de conduire les aliments directement dans l'estomac. Entre l'estomac et l'œsophage, il y a une petite valve qui s'appelle le sphincter œsophagien. Bon, ça, on n'est pas obligé de le retenir, mais qui empêche en fait le reflux, qui empêche que les aliments remontent en fait de l'estomac. Donc ensuite, une fois qu'on est situé dans l'estomac, c'est un petit peu le mixeur chimique. T'imagines que tout est fermé, le petit ballon, le bol alimentaire est dans l'estomac. Et là, tout est mélangé. C'est une poche qu'on dit musculo-muqueuse qui fait environ 1,5 litre. Donc cette poche, elle va brasser les aliments avec des sucs gastriques qui sont très acides pour les décomposer en bouillie, pour faire simple. Et cette bouillie, on l'appelle le chyme. C'est H-Y-M-E. Donc c'est ainsi que commence la digestion des protéines et qu'on régule en fait la vidange du bol alimentaire vers l'intestin grêle, qui est la partie après l'estomac. Donc on arrive donc dans l'intestin grêle, qui lui est un peu le chef d'orchestre de l'absorption. C'est OK pour toi ?
Jusque-là, tout va bien.
Okay.
C'est déjà beaucoup plus clair, je visualise mon corps de l'intérieur.
On continue le chemin.
On continue.
Ça marche. Ah, donc l'intestin grêle, il mesure entre 4 et 6 mètres environ, et il est divisé en 3 parties. Donc la première partie, c'est le duodénum. Lui, il va recevoir la bile qui est produite par le foie. Et les enzymes pancréatiques qui vont permettre de digérer les lipides, les protéines et les glucides. Ensuite, tu as le jéjunum et l'iléon. Donc c'est les principales zones d'absorption des nutriments, donc les glucoses, acides aminés, acides gras, vitamines, etc. Donc c'est vraiment à cet endroit-là que toutes les absorptions se passent. Donc l'intestin grêle, en fait, il est tapissé d'une paroi qui a des villosités intestinales qui permettent de maximiser le plus possible l'absorption des nutriments dans le sang. Donc il faut vraiment imaginer que c'est à cet endroit-là, je ne sais pas si tu as déjà vu des dessins animés quand tu étais petite,
il était une fois la vie.
Voilà.
Bien sûr.
Quand tu vois tous les petits nutriments qui passent à travers la paroi intestinale, c'est là que ça se passe.
Enfin un peu de repos.
Thank you.
Donc une fois qu'on a traversé l'intestin, on prend notre petit vaisseau et on continue justement dans le gros intestin, qui est la station de recyclage. Le gros intestin, c'est là où se situe donc le côlon. Et donc ce côlon va mesurer environ 1,50 m chez un adulte, et il est constitué du côlon ascendant, du côlon transverse, du côlon descendant et du sigmoïde, et enfin du rectum. Ok. Donc ce côlon, donc toute cette partie de côlon permet d'absorber l'eau et les sels minéraux restants qui n'ont pas été absorbés lors du passage dans l'intestin grêle, et de transformer les résidus alimentaires, donc on va dire les déchets, en sel. Il héberge le microbiote intestinal, donc c'est pour ça qu'il faut en prendre soin, avec donc des bactéries essentielles à la digestion, mais aussi à l'immunité, c'est pour le système immunitaire. Et enfin, bout du tunnel, on arrive au rectum et à l'anus, qui sont la sortie. Le rectum, lui, va stocker les sels avant leur élimination, et l'anus, lui, va contrôler par deux sphincters l'élimination, l'évacuation des sels. Voilà. Après, on a d'autres organes qui viennent magnifier tout ce beau système, qui vont être le foie, qui lui fabrique la bile, ça aide à la digestion des graisses, la vésicule biliaire qui stocke et qui libère la bile dans l'intestin, le pancréas qui lui va sécréter des enzymes digestives et des hormones comme l'insuline, qu'on connaît pour réguler la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Donc pour faire un petit résumé, on est sorti de notre petit vaisseau, voilà, on revient dans la salle de classe. En résumé, donc la bouche, elle broie et elle humidifie les aliments. L'œsophage, il fait descendre la nourriture vers l'estomac. L'estomac, lui, il brasse et il digère les protéines. L'intestin grêle, il absorbe les nutriments. Le côlon, il récupère l'eau et il forme les sels. Et enfin, le rectum et l'anus évacuent les déchets.
Waouh !
Voilà, pour faire simple.
Ah mais j'aime mon corps maintenant. Et alors, la problématique qu'on rencontre, c'est que cette machine bien huilée, des fois, il y a un peu des couacs, et notamment des couacs assez fréquents, ce qui concerne le côlon, Edmond.
Alors absolument, le cancer du côlon est un cancer qui est fréquent et meurtrier. Maud l'a expliqué, notre machine interne est complexe, elle est aussi fragile, et c'est la raison pour laquelle il faut effectivement... faire du dépistage pour prévenir les problèmes qui peuvent survenir et qui, dans le cadre du cancer colorectal, sont nombreux, puisque ça représente environ 43 000 cas par an, 23 000 chez les hommes et 20 000 chez les femmes. On pense souvent que les femmes ne sont pas concernées par le cancer colorectal. C'est tout à fait faux, puisque... il y a un petit peu moins de cas chez les femmes que chez les hommes, mais c'est un cancer très fréquent. C'est un cancer qui est mortel quand il n'est pas détecté à temps. Bonne nouvelle, heureusement, il y en a. C'est que dans 9 cas sur 10, quand il est détecté suffisamment tôt, en fait, on en guérit très facilement. Donc, c'est très important de se faire dépister. Et même si c'est effectivement le deuxième cancer le plus meurtrier de la famille, que j'appellerais famille des cancers, qui représente 17 000 décès par an, un dépistage précoce peut permettre de sauver plus de 6 000 vies par an, et c'est énorme pour un processus qui est très simple et très facile à mettre en œuvre.
Je tombe un peu dénue, j'avoue que je fais partie de cette catégorie de population qui pensait que les femmes étaient complètement épargnées par ça. Je suis super déçue.
Désolée.
Catherine, comment on reconnaît un cancer colorectal ?
Alors, la problématique du cancer colorectal, c'est que c'est un cancer qui évolue lentement et insidieusement, c'est-à-dire silencieux au début. Donc, il faut être très réceptif aux signes que notre corps manifeste. Donc, ces signes, ça peut être une présence de sang dans les selles. Donc du sang soit bien rougi, soit un peu noir, digéré. Un changement du transit intestinal, c'est-à-dire que notre rythme de sel se modifie, n'est pas le même que d'habitude. Soit la consistance des sels n'est pas la même, constipation ou diarrhée qui dure dans le temps. Et sensation d'évacuation incomplète des sels. On a aussi le bannulement, c'est-à-dire fréquent, c'est-à-dire une digestion, l'impression d'avoir l'estomac gonflé, qu'on ne digère pas bien, des crampes intestinales, une fatigue chronique qui s'installe, et une perte de poids inexpliquée. La perte d'appétit et les nausées fréquentes. Donc tous ces symptômes ne signifient pas forcément un cancer, mais doivent interpeller pour une consultation médicale rapide et voire des examens complémentaires, une investigation.
Ce que tu viens de dire, Catherine, ça c'est une fois que le cancer était établi. Est-ce qu'il y a quand même un moyen de s'en prémunir? Parce qu'a priori, notre corps, il n'est pas fait pour développer des cancers. Comment on fait pour se dire, bon, je mets toutes les chances de mon côté, je ne vais pas jusqu'au cancer, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être évitées?
Alors oui, évidemment. Donc on est toujours et très souvent sur les mêmes modalités de prévention, qui restent une alimentation équilibrée. On privilégie les fibres, les fruits, les légumes, les céréales complètes. On limite la viande rouge, la charcuterie, les aliments transformés.
Mais non, ça ne va pas, ça ne va pas. Trop de sucre, trop de graisse. Message important pour la vésicule biliaire. Accélérer la livraison de bile, on va en avoir besoin pour venir à bout de toutes ces graisses. Informer le pancréas, il va falloir des renforts d'enzymes et en quantité pour digérer tout ça.
Hop ! Pratiquer une activité physique régulière qui reste essentielle pour prévenir toute maladie. Donc 30 minutes d'exercice par jour, ça réduit en moyenne 25% le risque d'un cancer colorectal. Éviter le tabac et l'alcool. On sait que le tabac multiplie par deux le risque de cancer digestif parce que la fumée, elle passe par les poumons, mais elle est aussi, elle traverse aussi l'œsophage, la gorge, donc une partie du tube digestif. Et l'alcool qui favorise aussi également les cancers digestifs, même à faible dose, pardon. Maintenir un poids stable. L'obésité favorise l'inflammation intestinale et c'est un facteur de risque. Et enfin, un dépistage à partir de 50 ans. Donc c'est un test qui est très simple et qui permet de repérer le cancer avant qu'il ne devienne grave.
Alors jusqu'où va la simplicité, Edmond? Est-ce qu'on peut en savoir plus justement sur ce dépistage?
Alors le dépistage, c'est effectivement quelque chose de simple. D'un point de vue pratique, comment ça se passe? On peut commander un kit de dépistage chez son médecin, en pharmacie ou directement en ligne sur Internet. On le reçoit à domicile. On fait le prélèvement des selles à domicile. Donc voilà, c'est très simple à faire. Et on le fait en toute intimité chez soi, sans aucune difficulté. On a une petite enveloppe qui permet de renvoyer le prélèvement à un laboratoire qui est pré-identifié, qui est évidemment prépayé. Et on reçoit les résultats dans les 7 jours qui suivent. Donc finalement, le processus, il est très simple. Malheureusement, aujourd'hui, un nombre assez faible de personnes font ce type de dépistage. C'est simple, c'est gratuit, mais c'est peu utilisé, puisque aujourd'hui, on a à peu près un tiers des personnes qui sont potentiellement ciblées pour le dépistage qui le font. Et donc, ça, c'est une vraie difficulté, parce que, comme on le disait tout à l'heure, dans 9 cas sur 10, quand c'est pris suffisamment tôt, c'est un cancer, donc on guérit très facilement. Mais évidemment, si on ne l'a pas détecté à temps, ça peut devenir très lourd en termes de traitement. Donc c'est très très important de se faire dépister. Donc l'objectif, c'est effectivement que ce tiers de personnes devienne une majorité. C'est ce qui a été mis en œuvre depuis quelques années. C'est d'ailleurs la raison de l'existence de Mars Bleu, hein, qui est finalement un peu le parallèle pour le côlon d'Octobre Rose pour le cancer du sein. Alors qu'il est un peu moins connu, c'est un cancer qui est peut-être un peu plus difficile à exprimer et un peu plus intime. Et c'est vrai que c'est pas facile de faire passer le message du dépistage. Et pourtant, se faire dépister, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les polypes précancéreux, s'ils sont détectés rapidement, on peut les enlever. Ça n'a aucune conséquence. Donc c'est relativement simple à faire. Comme je le disais tout à l'heure, si c'est détecté tôt, dans 9 cas sur 10, c'est sans aucune conséquence. Et ça évite surtout, si on le détecte tôt, les traitements qui sont très lourds, hein, comme pour les autres cancers de chirurgie ou de chimiothérapie, et qui, eux, ont des conséquences, finalement, sur l'ensemble de l'organisme. Donc, c'est très important. Quand est-ce qu'on doit se faire dépister? Toutes les personnes de 50 à 74 ans peuvent réaliser un test tous les 2 ans. Donc c'est un suivi régulier finalement tous les 2 ans avec un test assez simple qui peut éviter beaucoup de mésagréments.
On reçoit normalement en Savoie, on reçoit un courrier Doc Savoie pour nous dire qu'on doit faire le test. Donc pour la mammographie.
Oui, tout à fait. En fait, il existe un dispositif qui est un dispositif national de dépistage dit organisé. Ça veut dire que de manière systématique, à partir du moment où vous rentrez dans la tranche d'âge concernée, vous recevez un courrier de la structure régionale de dépistage des cancers, qui s'appelle le CRCDC en région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui finalement vous invite à vous faire dépister. Et cette invitation, elle est renouvelée tous les 2 ans, simplement pour que vous y pensiez. Donc vous êtes aussi aidé dans le fait de bien penser, il faut que je me fasse dépister parce que je rentre dans les tranches d'âge. On l'a dit tout à l'heure, à partir de 50 ans. Hein. Et puis tous les 2 ans, on reçoit une nouvelle invitation disant, pensez à faire votre dépistage. C'est quelque part un petit pense-bête et c'est organisé. Et effectivement, le test est complètement gratuit et c'est une précaution indispensable pour prévenir les problèmes graves qu'on peut avoir avec ce type de cancer.
Tous les matins, c'est le Doxa. Quand je me décolle du traversin, de mon pieu à l'armoire à glace, je me déplace comme une limace. Je me dis devant les yeux cernés qui viennent ombrager mon gros nez, que même le trou de balle d'une vieille chèvre est moins ridé que mes vieilles lèvres. Puis mes boyaux s'éreta, chante la Traviata, et j'entends mon gros colon qui joue de l'hélico. Ma vieille carcasse est à la ramasse, je me dis t'es mal barré, mais tout n'est pas foutu, faut te remettre l'arrêt au milieu du cul. Mon pote Léon au bigophone m'annonce qu'il a la Parkinson. Il a laissé tomber le solfège depuis qu'il bat les œufs en neige. Son toubib lui a dit que c'est pas de bol, en plus du diabète qui s'envole, tout un peloton de cholestérol fait le tour de France dans vos guiboles, sans compter vos biscottos en gelée de groseille et vos organes génitaux en cure de sommeil. Nos vieilles carcasses sont à la ramasse, mais Léon têtu dit que tout n'est pas foutu, faut se remettre l'arrêt au milieu du cul. Ma femme m'inflige un dernier choc, elle me dit tu sais je suis devenu woke, je mange tout vegan à la cantine et je pisse debout comme la Sandrine. Moi aussi je me suis éveillé, t'es plus le patron sur l'oreiller, tu la feras même cher camarade ton vieux calbar quand il est crade. Il paraît qu'on appelle ça la culture cancel et que même le Che Guevara faisait la vaisselle. Ma vieille bécasse est à la ramasse, mais je suis persuadé que tout n'est pas foutu, je vais la faire changer, j'en suis convaincu, je vais lui remettre l'arrêt au milieu du cul.
Catherine, alors on l'appelle le cancer colorectal. C'est vrai que j'ai... Alors, colo, ça fait comme colon. Mais pourquoi colorectal et pas pourquoi cancer du colon?
Alors, parce qu'on c'est surtout centré sur la fin du tube digestif. C'est vraiment la dernière partie du tube digestif. Donc, colo pour colon, rectal pour rectum. Ah. Voilà. Et de toute manière, si on a des symptômes de saignement, de sel, de modification du transit de sel, c'est vraiment sur la dernière partie du côlon, comme l'a expliqué Maude, où là, le côlon resolidifie les sels pour qu'elles soient évacuées par le rectum. Colorectal, côlon, rectum. Donc, ce dépistage concerne surtout la partie inférieure du tube digestif. Mais il faut quand même rester sensible à tous les symptômes sur toute l'intégralité du tube digestif qui commence bien de la bouche jusqu'à l'anus. Parce que souvent, les gens oublient que la bouche, la mastication, ça est aussi un élément, la dentition, importante dans la digestion.
Catherine, une fois qu'on a fait ce dépistage dont Edmond nous a parlé, et qui est en effet d'une simplicité infantile, qu'est-ce qu'on fait une fois les résultats reçus ?
Donc le médecin traitant reçoit aussi les résultats, parce que dans le kit, on notifie son médecin traitant. Donc quand le résultat est négatif, bon ben, tout le monde est rassuré. Ça veut dire qu'il n'y a aucun signe de sang dans les selles. Mais il faut toujours rester vigilant par rapport à l'apparition des symptômes. C'est pas parce qu'on a un test négatif qu'il faut se dire, je risque plus rien. C'est-à-dire qu'au quotidien, il faut toujours appliquer les règles hygiéno-diététiques et être vigilant aux symptômes dont on a parlé précédemment. Et de toute manière, 2 ans plus tard, on reçoit le courrier disant, attention, il y a votre test à faire dans les mois à venir. Si le test est positif, donc, pas de panique à bord, c'est pas parce qu'un test est positif qu'il y a forcément cancer. C'est simplement qu'il faut aller voir, faire des examens complémentaires, style coloscopie, pour aller voir plus de manière plus approfondie le côlon, pour voir si c'est un polype bénin qui sera retiré lors de la coloscopie, si ce sont des hémorroïdes, ou s'il y a une irritation intestinale, c'est-à-dire toute la paroi intestinale qui est irritée, inflammée et qui peut entraîner des saignements. Test positif ne veut pas dire cancer, simplement investigation un peu plus importante pour voir de quoi il retourne. Et ce n'est pas un cancer dans 96% des cas. Donc ne pas avoir peur de faire le test parce qu'on a peur du retour positif. Le cancer n'est diagnostiqué dans ce cas de dépistage que dans 4% des cas. Donc, c'est minime, mais ça permet quand même de sauver beaucoup de vies. Et surtout d'être détecté tôt. Donc, dans 9 cas sur 10, d'être guéri. Maud va pouvoir vous expliquer en quoi consiste la coloscopie, parce que c'est un mot un peu barbare.
Donc, la coloscopie, c'est un examen qui est réalisé sous sédation légère ou anesthésie, c'est en fonction du souhait du patient. Elle permet de visualiser le côlon et de retirer d'éventuels polypes qui seraient présents tout au long du conduit. Un cancer en fait colorectal provient d'un polype qui aurait pu dégénérer. Donc si on voit la présence de polypes même bénins, c'est l'occasion en fait de pouvoir les enlever. C'est pas douloureux et ça permet effectivement d'éviter la mutation d'un polype bénin en polype cancéreux. Dans 70% des cas, elle ne détecte rien d'anormal. D'accord, donc c'est important d'en avoir quand même conscience parce que, comme disait Catherine, souvent on se dit si on cherche, on trouve. Pas forcément. Et enfin, si des polypes sont présents, ils peuvent être retirés immédiatement, c'est ce que je vous disais, et puis prévenir aussi un futur cancer.
On a fait le parallèle tout à l'heure entre octobre rose et mars bleu. Alors, comme tu le disais, Edmond, octobre rose, aujourd'hui, c'est vraiment rentré dans la culture, on va dire, générale. Mars bleu, par contre, pour être tout à fait honnête, j'en ai très peu entendu parler. En quoi ça consiste ?
Alors, effectivement, c'est le même type de dispositif qu'octobre rose, si ce n'est que c'est beaucoup plus récent. C'est vrai aussi que le dépistage organisé dont Catherine parlait tout à l'heure est beaucoup plus récent que le dépistage du cancer du sein. Et beaucoup moins utilisé finalement par l'ensemble de la population. Et Mars bleu, c'est effectivement une couleur différente, mais sur une opération qui sensiblement est la même, avec des animations qui sont organisées, des défis sportifs, de la marche, des courses, des randonnées, des conférences, des séminaires, des actions des professionnels de santé pour sensibiliser la population et sensibiliser les patients, des documents qui sont diffusés, des monuments qui sont éclairés en bleu à certains endroits, un peu finalement sur le parallèle du rose d'Octobre rose. Et il y a un dispositif qui est assez récent, qui se généralise dans toutes les régions en ce moment. C'est un dispositif sur smartphone connecté qui s'appelle, pour la Savoie, Mars Bleu Connect, et qui permet en fait d'organiser des équipes qui, pendant une partie du mois de mars, vont faire collectivement des activités physiques, marches, courses, etc., et qui vont comptabiliser à travers ce petit logiciel, cette app qui est à charger sur son téléphone portable, qui va comptabiliser en fait l'activité physique pendant la période. Maud l'a dit tout à l'heure, l'activité physique, comme sur beaucoup de pathologies, c'est finalement une anticipation des soucis de santé qu'on peut avoir. C'est valable aussi pour le cancer colorectal. Et donc, c'est intéressant de se regrouper, finalement. Et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes des Bauges à télécharger ce petit logiciel. Nous allons, avec la CPTS, mettre en place une équipe Bauges, finalement, pour relever ce défi de se mobiliser et de faire de l'exercice pendant la deuxième quinzaine du mois de mars. Et bon, voilà, après il y a une petite compétition entre les différentes équipes, très amicale. Mais l'idée avant tout, c'est à la fois de prendre conscience que le dépistage c'est important, et c'est important pour soi déjà, à commencer par là. Et aussi que faire de l'exercice, comme le disait Maud, c'est très important aussi pour prévenir ce cancer et finalement la plupart des pathologies.
Chaque test, chaque espoir éloigne les peurs. Dans ce geste simple, une vie peut être sauvée. Marchons sous Mars Bleu, au CHU, tous mobilisés.
Alors pour conclure, parce qu'on commence à travailler ensemble depuis plusieurs émissions, on va te mettre un petit peu au défi.
J'accepte. Ok. Sur un sujet que l'auditeur l'aura entendu, je ne maîtrise pas spécialement.
Mais peu de gens. Et puis on s'est dit, bon, c'est pas un sujet très funky. On va essayer de le rendre un peu plus drôle en te proposant un petit quiz. D'accord ?
Alors on invite les auditeurs à réfléchir en même temps que moi.
C'est ça.
Et à répondre devant leur poste de radio.
Ça marche. T'es prête ?
Je suis prête.
Alors, le cancer colorectal est le plus fréquent en France, vrai ou faux?
Alors, je crois pas, mais il fait partie du top 5.
Bravo, c'est le troisième cancer le plus fréquent après le cancer du sein et de la prostate, mais il reste le deuxième le plus meurtrier.
Alors, deuxième question, le cancer colorectal touche autant les hommes que les femmes?
Eh ben, presque. C'est pas parce que c'est Mars Bleu que c'est réservé aux hommes, je crois que j'ai retenu ça.
Parfait.
Troisième question. Ce cancer se développe toujours très rapidement.
Alors ça, je ne sais pas si c'est rapide ou pas, mais je crois, Catherine, que tu disais qu'au début, ça pouvait être silencieux, en tout cas.
En général, il évolue lentement, souvent sur plusieurs années, à partir de polypes bénins qui peuvent devenir cancéreux, mais avec des symptômes physiques, visuels, qui sont, qui n'apparaissent pas rapidement. Donc il faut être sensible aux signes cliniques, comme du sang dans les selles, une modification de son transit intestinal, de la consistance de ses selles, des ballonnements, de la fatigue, il ne faut pas de perte de poids. Il ne faut pas laisser des symptômes de ce genre perdurer sans consultation médicale. Et après, arrivé à un certain âge, la cinquantaine, le demi-siècle, nous sommes invités, hommes et femmes, à faire le test de dépistage du cancer colorectal.
C'est noté.
Quatrième question, t'es prête ?
Oui.
Une alimentation trop riche en charcuterie et en viande rouge augmente le risque de cancer colorectal.
Alors je crois que malheureusement, Pour la raclette, oui.
C'est ça. Alors, on a dit une consommation excessive de viande rouge, hein, de charcuterie. Ça, en fait, ça va provoquer une inflammation en fait, au quotidien du côlon. On a compris que c'est dans le tube digestif que se passent en fait, tous les échanges de nutriments. Et il faut favoriser, si tu veux, un bon équilibre dans ton alimentation.
Alors, si on revient là-dessus, parce qu'on est quand même en hiver et c'est quand même la période de la raclette, ça veut dire qu'à chaque raclette, on flippe. Ou que ça veut dire quoi, une consommation excessive?
Ça veut dire de ne pas manger tous les jours de la charcuterie, de la viande rouge. Peut-être, là, la viande rouge, on dit peut-être une à deux fois par semaine maximum. Après, si c'est une semaine où tu es en vacances, ben voilà, tu te fais plaisir. Parce que ne pas être heureux, c'est aussi dangereux pour la santé.
On a le droit de faire des petits excès de temps en temps. Il faut juste qu'ils ne soient pas au quotidien.
C'est ça.
Ok.
Alors, autre question. Se faire dépister permet d'éviter le cancer colorectal?
Alors, éviter, peut-être pas, parce que si on a fait des raclettes toute sa vie, tous les jours, il est là. Mais par contre, pris à temps, il peut ne pas être mortel.
Prochaine question. Si on a des antécédents familiaux, on doit faire le dépistage plus tôt, avant 50 ans.
Ah, alors ça, j'en ai aucune idée.
Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais quand il y a des antécédents familiaux de cancer colorectal au niveau des ascendants, ou si on a déjà eu des problèmes de santé, on ne fait pas le dépistage du cancer colorectal, on a déjà la coloscopie en amont, avant 50 ans, qui est recommandée tous les 5 ou 10 ans en fonction des antécédents familiaux et des problèmes qu'on a déjà eu précédemment.
Et par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, quand on est suivi de manière régulière par coloscopie, en fait, on ne reçoit pas l'invitation du dépistage organisé.
Le test de dépistage est long, douloureux et très compliqué.
Alors, je crois pas, parce que si je fais avec mes mots à moi, je crois qu'il suffit de faire caca dans un pot.
C'est ça.
C'est ça.
Donc a priori, c'est à portée de tout le monde.
Et tout seul en plus.
Et tout seul.
Un test de dépistage positif signifie forcément qu'on a un cancer. Oui ou non?
Alors non, parce que dans les chiffres que vous donniez, c'était assez incroyable. 96%,
c'est ça.
Ça ne débouche pas sur un cancer. C'est juste autre chose qui merdouille, mais c'est pas un cancer.
Ah, tu as été très attentive.
Mais vous expliquez super bien.
Si le test est positif, une coloscopie est systématiquement nécessaire.
Je crois qu'il faut l'avis d'un professionnel de santé pour savoir si on s'oriente vers une coloscopie.
Voilà, c'est ça. Si le test est positif, il faut se rapprocher d'un professionnel de santé et en fonction des symptômes, de différentes données, le médecin vous orientera vers une coloscopie ou pas.
La coloscopie est un examen risqué et très désagréable.
Non, parce qu'on peut être sous anesthésie.
C'est ça. Donc on peut être sous anesthésie ou sédation légère et pour que ce soit bien toléré. Après, le principal inconfort, on ne va pas se le cacher, c'est plutôt la préparation. Parce qu'effectivement, aller voir ce qui se passe dans le rectum et dans le côlon, il faut quand même qu'il y ait un petit ménage qui soit fait avant. Et il faut procéder à ce petit ménage. Voilà. Donc c'est plutôt ça qui est... Alors inconfortable, non, mais qui nécessite la prise d'un petit lavement.
Onzième question, faire du sport réduit le risque de cancer colorectal?
Alors moi j'ai envie de dire que faire du sport, globalement depuis qu'on fait des chroniques ensemble, ça réduit à peu près toutes les maladies du monde. Hein.
C'est pas faux.
C'est
donc
tout à fait vrai.
Cancer colorectal compris.
Ne mettons pas la pression dans le faire du sport, je parle en connaissance de cause parce que j'ai du mal à être sportive, mais au moins bouger.
Non, faire de l'exercice physique.
Et faire de l'exercice physique. Sport, ça met toujours un petit peu de pression pour les gens qui sont...
On ne devient pas marathonien,
voilà.
Et on fait de la marche à pied
c'est
au lieu de prendre sa voiture.
Bouger, lutter contre la sédentarité. Douzième question. Il est conseillé de faire le test de dépistage une fois dans sa vie après 50 ans.
Ah bah non, on n'a pas dit tous les deux ans après 50 ans.
Tout à fait ça. Et on a un petit moyen mnémotechnique.
Oh.
Il y a un support qui nous permet de nous en rappeler. On n'a pas besoin de gérer nous-mêmes le rappel tous les deux ans.
C'est-à-dire que le dépistage organisé fait lui-même le rappel.
Voilà, ouais. Par courrier postal.
Un petit peu comme le MT dent, tu sais, pour les enfants, que tu reçois par... Si je n'ai aucun symptôme, je n'ai pas besoin de me faire dépister.
Non. On se fait dépister à partir de 50 ans tous les 2 ans, parce que des fois, les symptômes ne sont pas visibles.
Mais c'est parfait.
Une bonne alimentation et une hygiène de vie saine suffisent à prévenir totalement le cancer colorectal.
Alors, je crois que ce serait un peu s'avancer super vite quand même. Ça aide à réduire.
Parfait.
Parfait, oui. Dernière question. Le test de dépistage est gratuit et pris en charge à 100% par la Sécurité sociale.
Bah, c'est une bonne question. Oui.
Oui, tout à fait. Il est totalement remboursé par l'assurance maladie et on peut le récupérer soit chez son médecin traitant, soit à la pharmacie, soit le commander directement en ligne.
Bon, bravo Marion, tu as ton colon d'or, je crois.
Ouais. Merci, mais je suis hyper contente parce que grâce à vous, je sais situer le colon d'or à l'intérieur de mon corps. Et ça, c'était pas gagné au début. Je sais que ça ne concerne pas que les hommes, mais bien hommes et femmes. Et que bah, il me reste 10 ans avant d'avoir la joie de d'avoir le kit de dépistage.
Bon. Mais tu seras invitée de toute façon dans 10 ans, de manière automatique.
C'est vrai que quand on a 50 ans, on a un rappel très, très joyeux et ludique. Mammographie pour les femmes, dépistage du cancer colorectal hommes et femmes. Il n'y a pas le dépistage systématique de la prostate pour les hommes, mais arrivé à un certain âge, c'est fortement recommandé de voir son médecin traitant pour surveiller tout ça.
Alors comme pour toutes les thématiques qu'on aborde ensemble, pour toutes les personnes qui auraient des questions sur déjà où se situe le côlon et sur le cancer colorectal et son dépistage, ils peuvent se rapprocher des professionnels de santé.
Évidemment, on est tous formés de toute façon pour pouvoir transmettre les informations. On travaille en équipe de façon à orienter le patient le plus possible dans le lieu qui répondra à ces questions. Et sur le site aussi de la CPTS des Bauges, vous pouvez trouver des informations et le mail pour communiquer avec nous directement.
Merci infiniment Maud, Catherine et Edmond d'avoir pris ce temps et au mois prochain.
À bientôt.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Journée.
Retrouvez tous les renseignements sur la CPTS des Bauges, ses actions, ses professionnels et ses messages de prévention sur www.radioalto.info à la rubrique Émission des partenaires.